Chapitre 3 Dans la maison du serpent. Marie-Thérèse ouvrit les yeux. Mais de quel rêve sortait-elle? Dans quel rêve entrait-elle? La voix plaintive du petit Cristobal la rappela d'une façon précise et aiguë à l'horrible réalité. Elle tendit les bras pour qu'il y vînt jeter, mais elle ne sentit ni ses baisers ni ses larmes. Ses paupières se soulevèrent avec effort pour rejeter le poids du sommeil magique qui l'étouffait encore. Son front pâle roulait sous ses cheveux dénoués et flottants. Elle desserra les dents pour respirer, et elle semblait une noyée, point tout à fait morte, qui revient à la surface des eaux pour chercher l'air et la vie. Ainsi remontait-elle du fond des ténèbres et des songes, où la plongeait presque instantanément le sachet sacré, toujours prêt au point hideux des trois momies vivantes. Et Mama Conas, elles aussi, avaient des parfums redoutables qu'elles allumaient autour d'elles pour la rendre immobile. Et l'épouse du soleil devenait statue quand elle brûlait dans des vases précieux la résine de Sandia, plus odorante que l'encens, plus endormante que la jusquiame et plus hallucinante que l'opium. Alors elle pouvait chanter sans crainte d'être dérangée. Marie-Thérèse était partie pour ailleurs et ne les entendait pas et ne voyait rien de ce qui se passait autour d'elle. Chose singulière, dans cet état de transposition, elle était portée par l'esprit dans son bureau des magasins de Callao, à l'instant précis où Raymond, à la fenêtre, avait appelé Marie-Thérèse et où elle avait laissé tomber le gros registre vert. Puis elle était tourmentée par l'idée qu'elle avait laissé inachevée une lettre qu'elle écrivait au correspondant de la maison d'Anvers pour lui rappeler qu'au prix qu'il voulait y mettre, il ne pouvait avoir que du guano phosphaté qui n'aurait que 4% d'azote et encore. Elle avait laissé cette lettre inachevée parce qu'on en avait frappé à la fenêtre, qu'elle était allée ouvrir et où elle croyait voir apparaître Raymond. Et c'étaient les trois crânes monstrueux des trois momies vivantes qui s'avançaient maintenant vers elle dans la nuit avec leurs mouvements de pendule et qui se jetaient tout à coup sur elle et qui posaient brutalement sur sa bouche leurs mains parcheminées par la nuit éternelle des catacombes. Quand elle sortait de sa lourde léthargie, elle croyait avoir fait un rêve. Mais les yeux ouverts sur la réalité, elle ne savait plus si au contraire elle ne faisait qu'entrer dans le songe. Quand Marie-Thérèse, cette fois, ouvrit les yeux, elle était dans la maison du serpent. Elle savait que le jour où elle se réveillerait dans cette maison-là, elle serait bien près de la mort, car on ne devait l'y faire entrer que pour la donner à Uyama Capac, l'avant-dernier roi des Incas, qui viendrait la chercher pour la conduire et l'offrir à Atahualpa dans les demeures enchantées du soleil. Les Mamaconas l'avaient instruite de ce détail, comme c'était leur devoir. Car au cours du voyage, on lui avait laissé des moments lucides où on la nourrissait du nectar nécessaire à la conserver vivante jusqu'à la cérémonie, et aussi des principes d'une religion dont elle était la proie sacrée. On lui avait appris ses devoirs d'épouse du soleil. Elle avait cru d'abord qu'elle serait assez heureuse pour perdre la raison. Une fièvre si terrible l'avait prise dans les bras de ses gardiennes qu'elle avait pu espérer que son âme s'envolerait avant qu'elles eussent martyrisé son corps. Mais elle connaissait les secrets qui guérissent cette fièvre-là, ayant été élevée dans la montagne. À l'époque, elle lui avait fait boire une eau rougeâtre pendant qu'elle chantait « La fièvre a étendu sur toi sa robe empoisonnée. La haine que nous avons jurée à ta race nous a poussés à faire serment de ne jamais révéler le secret qui l'a guéri. Mais le mal t'a frappé. » Et notre amour pour l'épouse du soleil est plus fort que notre haine contre les tiens. Bois, au nom d'Atahualpa qui t'attend. Ainsi, elle était revenue à la vie pour mourir. Mais après chaque étape, au moment du départ, les petites momies vivantes revenaient avec leurs sachets sacrés, et il suffisait ainsi que les mamakonas s'allumassent en chantant la sandhya au fond des vases précieux, pour qu'elle ne fût plus à nouveau qu'une statue inerte entre leurs mains agiles. Ainsi lui avait-on fait traverser tout le Pérou. Ainsi était-elle arrivée à Arequipa, dans la petite maison en adobe, qui devait être la dernière étape avant la maison du serpent. Là, elle avait vu apparaître pour la première fois Huascar, qui portait dans ses bras un léger fardeau recouvert d'un voile. Elle avait eu la force de se lever à son approche. Elle lui avait crié « Tu viens pour me sauver ?» Elle avait dit cela sans se préoccuper de toutes les oreilles qui étaient là. Et l'autre lui avait répondu « Tu appartiens au soleil, mais avant qu'il te prenne, je t'apporte une grande joie. Tu vas pouvoir embrasser ton petit frère. » Il avait alors soulevé le voile et lui avait présenté l'enfant endormi. Elle poussa un cri et voulut se jeter en avant, mais Huascar recula, car il était défendu de toucher à l'épouse du soleil. Les trois gardiens du temple étaient là, balançant leur crâne hideux. Ils donnèrent l'ordre à l'une des mamakonas de porter l'enfant endormi à Marie-Thérèse. Alors, celle-ci l'avait pris dans ses bras avec désespoir et l'avait embrassé en pleurant. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis qu'elle était prisonnière. Ses larmes tombèrent sur les paupières de l'enfant qui ouvrit les yeux. Elle dit « Mais comment l'avez-vous ici? Vous n'allez point lui faire de mal. » Huascar, pendant que l'enfant, pendu au cou de sa grande sœur, sanglotait dans son sein, « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» Huascar avait répondu, « Nous ferons ce qu'il voudra. Moi, je ne demande pas mieux que de le rendre à ses parents. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui décidera de son sort. Qu'il prenne garde à ses paroles. C'est tout ce que je puis dire, tout ce que je puis faire pour vous. » J'en appelle aux trois gardiens du temple. Ceux-ci balançaient leur crâne hideux pour approuver tout ce que disait Huascar. Marie-Thérèse, qui couvrait l'enfant de baisers, releva son beau visage où était peinte une épouvante nouvelle. « Mais que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire avec qu'il prenne garde à ses paroles? Est-ce qu'un petit enfant peut prendre garde à ses paroles ?» Huascar alors s'était adressé au petit Cristobal. Enfant, veux-tu venir avec moi? Je te rendrai à ton père. Je veux rester avec Marie-Thérèse, avait répondu Cristobal. L'enfant a parlé, avait dit Huascar. Il ne te quittera plus. C'est le rite, n'est-ce pas, vous autres? Les trois gardiens du temple balançaient leurs crânes. Alors Huascar, avant de partir, avait prononcé les mots du psaume Aymara. Heureux sont ceux qui parviendront, purs, dans le royaume du ciel, purs comme le cœur des petits-enfants à l'aurore du monde. Huascar, Huascar, souviens-toi de ma mère, aie pitié de nous. Mais Huascar avait salué les gardiens du temple et était parti. Marie-Thérèse avait étreint le petit Cristobal, l'avait serré sur sa poitrine comme une folle. Mais malheureux enfant, pourquoi es-tu venu? Pour te dire, Marie-Thérèse, de ne pas avoir peur. Papa et Raymond vont venir. Ils te cherchent, ils sont derrière nous. Ils nous sauveront. Mais si tu meurs, je veux mourir avec toi. Alors ils avaient pleuré, pleuré tous les deux. Et ils n'avaient pas cessé de s'embrasser, et leurs deux visages étaient ruisselants de leurs larmes mêlées. Puis étaient revenus les mamakonas, qui avaient disposé leurs trépieds, leurs vases sacrés, et on avait allumé la sandhya. et ils s'étaient endormis tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Et maintenant, elle se réveillait dans la maison du serpent. Elle ne sentait plus contre elle les baisers et les larmes de Cristobal. Cependant, il criait, il appelait. Elle parvint à se dresser dans le fauteuil où on l'avait étendue. Et alors elle vit, en face d'elle, l'enfant tout nu entre les mains des mamas Conas. Effrayée, Marie-Thérèse voulut courir au secours de Cristobal. Mais six mamas Conas l'entourèrent et la calmèrent momentanément en lui affirmant qu'on ne ferait aucun mal à l'enfant et qu'on procédait simplement à sa toilette, comme il allait être fait pour elle, car ils devaient revêtir tous deux la robe en peau de chauve-souris. En lui parlant, elle lui donnait un titre qu'elle n'avait pas encore entendu dans leur bouche. Elle lui disait « Koya », qui en inca signifie « reine ». Elles la prirent dans leurs bras puissants comme une poupée, lui enlevèrent la robe couleur de soufre dont on l'avait revêtue dès la première étape dans l'hacienda d'Ondegardo, et recommencèrent, comme elles l'avaient fait alors, à la frotter d'huile et d'onguents odoriférants, en chantant une lente mélopée qui berçait singulièrement l'esprit. C'étaient de grandes et fortes femmes de la province de Puno, nées aux rives du lac Titicaca. Elles étaient vigoureuses et belles. Leur démarche était un peu dansante, presque toujours rythmée, mais souffle et harmonieuse. Leurs bras dorés et fermes sortaient nus des voiles noires. Elles avaient des yeux magnifiques, la seule chose qu'elles laissaient voir de leur visage. Marie-Thérèse et le petit Cristobal avaient peur d'elles, mais elles n'étaient point méchantes. Deux d'entre elles devaient mourir avec Marie-Thérèse pour lui préparer la chambre nuptiale dans le palais du soleil, et c'étaient celles qui se montraient les plus alertes, les plus chantantes, les plus encourageantes. Elles étaient pleinement heureuses et regrettaient que la jeune fille ne montrât pas la même joie. Elle faisait cependant ce qu'il fallait pour cela, lui décrivant les plaisirs qui l'attendaient là-haut, et lui vantant avec prosélytisme le bonheur qu'elle avait d'être choisie entre toutes pour devenir la Koya. Elle portait de lourds bracelets d'or aux pieds, qui sonnaient quand se heurtaient leurs chevilles, et de larges anneaux aux oreilles. On n'entendait plus l'enfant, il était sage. On lui avait promis, s'il se tenait tranquille, de le reporter dans les bras de Marie-Thérèse. Celle-ci également se laissait aller aux mains des mamas Conas avec docilité. La litanie dont elles endormaient ses oreilles endormait aussi son esprit, lourd encore du sommeil magique dont il sortait. Une pensée était en elle qui la soutenait aussi. C'est que l'on savait où elle était, ce qu'elle était devenue, qui l'avait enlevée et pourquoi. Elle était sûre qu'une pareille horreur ne serait pas commise. On les sauverait tous deux. Le petit Cristobal avait pu la rejoindre. Alors que ne pouvaient faire son père et Raymond? S'il n'était pas intervenu plus tôt, c'est évidemment qu'il voulait agir à coup sûr. Elle s'attendait d'un moment à l'autre à voir apparaître leur sauveur avec la police et les soldats. Et tous ces sauvages s'enfuiraient dans leurs montagnes, on ne les verrait plus. Et cet affreux rêve serait oublié. En attendant, elle ne résistait pas. Elle se sentait faible comme une enfant devant le destin. Seuls les pleurs du petit Cristobal parvenaient à l'émouvoir. L'épouse du soleil revêt la robe nuptiale. Dans la demeure du soleil chantent les mamas Conas pour la centième fois. Les arbres produisent des fruits lourds, et lorsqu'ils sont mûrs, les branches fléchissent pour que l'Indien n'ait pas à se donner la peine de lever le bras pour les cueillir. Ne pleurez pas. Vous vivrez éternellement, éternellement, éternellement. La mort vient frapper aux portes du palais terrestre, et le génie du mal étend ses ailes maudites sur nos forêts. Mais ne pleurez pas, car là-haut, auprès du soleil et de la lune qui est sa sœur et sa première femme légitime, et auprès de Charka qui est son page fidèle, vous vivrez éternellement, éternellement, vous vivrez éternellement. On mit sur les cheveux parfumés de Marie-Thérèse le borla royal dont les franges lui tombaient jusque sur les yeux et lui donnait déjà une sorte de beauté hiératique. Elle tressaillit quand on glissa sur ses membres nus la robe en peau de chauve-souris. Il lui sembla qu'elle entrait dans quelque chose de visqueux et de glacé et qu'elle appartenait dès ce moment à la nuit éternelle dont la chauve-souris est la koya. Puis on lui prit le poignet et on y glissa un anneau qu'elle regarda et qu'elle reconnut. C'était le bracelet soleil d'or. Alors elle comprit qu'à partir de cette heure commençait vraiment son agonie et elle se rappela avec une amertume désespérée, l'heure heureuse et terrible où ce bracelet lui était apparu pour la première fois, les plaisanteries dont il avait été l'objet, sa tante Agnès effrayée, la duègne Irène se signant, son père sceptique et Raymond amoureux. Oh, où étaient-ils tous maintenant? Mais que ne venaient-ils les chercher? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Il était temps, il était temps. Elle tendit les bras vers le salut providentiel qui ne vint pas, et elle les referma sur le petit Cristobal qu'on venait de lui apporter dans sa petite robe sinistre en peau d'oiseau nocturne. Quand elle le vit habillé comme elle, elle se lamenta sur cette innocente victime. Elle voulut parler aux gardiens du temple qui vinrent à elle en balançant leurs crânes immondes. Ah, c'était bien cela qui était sorti devant elle et devant Raymond, des wakas funèbres, qui avaient surgi de la tombe et qui allaient l'y emporter. Ils n'étaient revenus sur la terre que pour cela. C'était eux qui la guettaient derrière les vitres de son balcon. Quoi qu'elle en ait dit, la petite Concha, ce n'était pas cette esclave qui avait ramassé sur le sable de la mer le bracelet soleil d'or. C'était eux à qui elle appartenait déjà, à qui elle était promise, qui avaient reçu dans leur poing hideux le bracelet soleil d'or détaché de son bras. Et c'était eux qui le lui avaient rattaché, cet anneau plus redoutable que les chaînes dont on charge les condamnés à mort. Ah, si elle les reconnaissait! Voici la casquette crâne, et le crâne pain de sucre, et le crâne petite valise. S'ils pouvaient seulement arrêter leur balancement de pendule, elle leur parlerait, ils comprendraient, peut-être. Mais ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas. Alors elle leur dit, sans les regarder, car ce balancement perpétuel l'étourdit et pourrait l'endormir, elle leur dit qu'elle est bien décidée à mourir correctement, comme doit mourir une épouse du soleil, mais à une condition, c'est qu'ils ne feront pas de mal au petit enfant, et qu'on le reportera tout de suite, sain et sauf, à Lima. Je ne veux pas quitter Marie-Thérèse, je ne veux pas quitter Marie-Thérèse. Le petit a parlé, c'est le rite, dirent les gardiens en se regardant. Et sans plus rien ajouter, ils s'en vont en se balançant. Marie-Thérèse pousse un sanglot de folle. Le petit Cristobal, pour calmer sa grande sœur, l'étreint à l'étouffer.
Ils vont venir, Marie-Thérèse, ne pleure pas, ils vont venir. Chut, écoute.
On entend, en effet, derrière les murs, une étrange musique et presque aussitôt entre la théorie des joueurs de flûte.
Ce sont de beaux hommes tristes qui s'assoient en rond autour de Marie-Thérèse et de l'enfant et qui jouent de la flûte dans des os de mort. Ce sont des musiciens sacrés de la Quena. Leur chant est plus triste qu'un De Profundis. Rien qu'à l'entendre, une sueur glacée se répand sur les membres de Marie-Thérèse, dont le regard éperdu fait le tour de cette vaste salle, toute nue, qui est certainement l'antichambre de son tombeau. Des pierres cyclopéennes, monstrueuses, hexagonales, posées les unes sur les autres, sans ciment, sans autre attache que leur poids énorme, forment les murs de la maison du serpent. Les mamakonas lui ont dit, c'est la maison du serpent. Elle en a entendu parler autrefois, où il y a deux maisons du serpent, l'une à Cajamarca, l'autre à Cusco. Elles sont appelées ainsi du serpent de pierre, qui est sculpté au-dessus de la porte d'entrée, et ce serpent est là pour garder les enceintes sacrées. Il ne laisse jamais sortir les victimes destinées au soleil. La vieille tante Agnès et la duègne Irène savent cela. Elles ont appris cela à Marie-Thérèse, qui avait bien ri de ce dernier détail. Marie-Thérèse est donc au Cusco, dans un palais bien connu des voyageurs, des étrangers en visite au Pérou, des historiens, des archéologues, enfin des hommes civilisés, un palais qui se trouve en plein Cusco, et dans lequel chacun peut entrer, d'où chacun peut sortir, que les maîtres d'auberge font visiter à leurs clients de passage. Alors, mais quoi, qu'est-ce qu'elle craint? Que signifie cette comédie? On va venir, mais pourquoi ne vient-on pas? Par où va-t-on venir? Ah, elle a entendu du bruit, des murmures. Oui, par-delà les chants funèbres des flûtes d'eau de mort, on entend comme une foule qui vient. Là, derrière le vaste rideau, le large rideau jaune d'or qui est tiré d'un bout à l'autre de la salle, dans sa grande largeur et qui l'empêche de voir ce qui se passe. Mais pourquoi ces rumeurs, ces chuchotements, cet innombrable remuement de pieds? Elle questionne les deux mamakonas qui doivent mourir avec elle et qui sont étendus à ses pieds dans leur long voile noir. Celles-ci lui répondent avec respect et amitié que l'on se prépare à adorer le roi Uyanacapac qui doit venir la chercher pour la conduire à Atahualpa. Marie-Thérèse ne comprend pas. Ce roi est mort depuis très longtemps. Comment veut-on qu'il vienne? On ne sait même pas où il est. Elles lui répondent qu'on sait parfaitement où il est. Il est au fond de la nuit et il va venir du fond de la nuit et il les emportera toutes les trois. Et elles traverseront la nuit, elles avec leur robe de deuil, Marie-Thérèse avec sa robe de peau d'oiseau de nuit, et elles arriveront dans les demeures enchantées du soleil. Alors elles seront habillées toutes en or, avec des robes d'or et des bijoux d'or, pour éternellement. « Et le petit garçon ?» demanda Marie-Thérèse. « Que va-t-on faire du petit garçon ?» Horreur ! Elles détournent la tête et ne répondent point. Marie-Thérèse serre encore davantage le petit garçon et le couvre de baisers comme si elle voulait l'étouffer elle-même, comme si elle voulait le faire mourir elle-même sous ses baisers. Et l'enfant Cristobal lui dit encore, « Mais ne pleure pas, ma grande petite sœur, c'est pas ce vilain roi qui va venir, mais papa est bon, ne pleure pas. » Et il lui rend ses baisers. Sur l'une des grandes pierres, il y a des signes mystérieux que les mamakonas regardent à chaque instant et que les joueurs de flûte d'eau de mort se montrent en soufflant plus fort leurs dés profondis. Ce sont des sculptures étranges qui représentent des oiseaux à tête d'homme et à corps de coracuenque. Le coracuenque est un oiseau incaïque dont Marie-Thérèse a déjà vu l'image dans les musées de Lima. Elle sait que de tout temps et sur toute la terre, il n'a existé à la fois qu'un seul couple de ces oiseaux qui apparaissent dans la montagne au moment de l'investiture d'un nouveau roi auquel ils donnent deux de leurs plumes pour orner sa chevelure. Ceux-là sont en pierre et font partie de la pierre. Et pourquoi les regarde-t-on ainsi? Mais le bruit derrière le rideau a cessé et les joueurs de flûte d'eau de mort font entendre un modulement tout à coup si strident que les oreilles en sont comme percées. Le petit a peur et s'appuie davantage au sein de Marie-Thérèse. Et tout à coup, le rideau glisse et l'on voit toute la salle. La mort va venir. Écoutez. La salle est pleine d'une foule prosternée et silencieuse. Seuls sont debout sur les marches de porphyre rouge qui descendent jusqu'à ce peuple, d'abord les trois gardiens du temple aux trois crânes incroyables. Ils sont habillés de robes de vigogne. Derrière eux, à un degré plus bas, debout aussi, se tient Huascar, les bras croisés sous un punch rouge. Et puis plus bas encore, à l'autre degré, il y a quatre punchs rouges prosternés. Ce sont les veilleurs du sacrifice. Leurs têtes, recouvertes du bonnet sacré à oreillettes, sont si courbées sur la pierre qu'on ne voit point leur visage. Thérèse n'a point plus tôt aperçu cette foule qu'elle ne peut croire qu'il ne se trouvera point là quelqu'un pour la délivrer. Elle se lève avec l'enfant dans les bras, elle crie « Délivrez-nous, délivrez-nous !» Mais un immense cri lui répond « Muera la colla, muera la colla !» Il lui donne son nom de reine en amaïra quichua, mais il l'avoue à la mort en espagnol pour qu'elle comprenne bien qu'elle n'a rien à attendre de leur pitié. « À mort la reine !» Les quatre Bamaconas qui sont à sa droite, les quatre Bamaconas qui sont à sa gauche et les deux autres qui doivent mourir, qui sont devant elle, lui ont fait reprendre sa place sur son siège. Mais elle se débat encore, elle se dresse encore, elle lève au-dessus de sa tête le petit Cristobal et crie « Mais que celui-là au moins soit sauvé !» Mais tous reprennent « Celui-là est pour Pacahuamac !» Celui-là est pour Pacahuamac. Et les douze Bamaconas chantent au commencement, avant le dieu soleil et sa sœur la lune, son épouse, il y avait Pacahuamac qui était l'esprit, le pur esprit. Il faut du sang pur à Pacahuamac, répondent en chantant les assistants. Et puis l'un d'eux ayant crié encore, « Celui-là est pour Pacahuamac !» Huascar se retourna et le fit taire. Ils étaient tous debout maintenant, excepté les quatre punchs rouges, toujours prosternés, veilleurs du sacrifice. Les souffleurs de Cuenas faisaient un bruit terrible avec leurs os de flûte de mort. Bientôt on n'entendit plus qu'eux, car leur bruit avait eu raison de tous les bruits. Marie-Thérèse, effondrée, vaincue, ne criait plus, ne résistait plus. Aucune voix, aucun signe n'avait répondu à son appel. Cristobal et elle étaient perdues. Elle demanda dans un souffle au Mamaconas qui l'entourait, allumez au moins les parfums, nous ne souffrirons pas. Mais les deux qui devaient mourir avec elle lui dirent Oh, nous devons mourir de tout notre esprit et de tout notre cœur pour revivre avec tout notre esprit et tout notre cœur. On n'allumera pas les parfums.
Et voilà que les joueurs de Quenas se turent à leur tour et qu'il y eut un silence effrayant. Toute l'assemblée à nouveau se prosterne. Et la voix sonore de Huascar dit « Silence dans la maison du serpent. Le mort va venir, écoutez !» Alors une sorte de tremblement de terre semble ébranler les murs cyclopéens. Cependant que le sourd roulement du tonnerre se faisait entendre, mais au lieu de venir du ciel, il montait des entrailles même de la terre. À ce moment, le petit Cristobal tressaillit dans les bras de sa sœur, et elle crut que c'était de peur. Mais il lui dit à l'oreille, « Regarde, Marie-Thérèse, regarde les quatre penches rouges !» Alors elle leva sa tête appesantie et regarda, et elle aussi tressaillit. Pendant que, sous le coup de l'effroi causé par ces étranges phénomènes, toute l'assistance était courbée sur les dalles, quatre têtes apparaissaient, soulevées, tendues vers Marie-Thérèse, et sous leur bonnette à oreilles, sous les cheveux qui balayaient leur visage tanné, bruni par les fards indiens, l'épouse du soleil venait de reconnaître son fiancé, son père, Natividad et l'oncle François Gaspard. Oh, une joie immense inonda son cœur. Le petit Cristobal et elle se serrèrent éperdument. Les quatre bonnets des quatre ponches rouges étaient déjà retombés sur les dalles, pendant que toute l'assistance relevait la tête au cri poussé par Huascar, annonciateur du roi défunt Uyanakapak. Tandis qu'un nouvel ébranlement de la terre semblait secouer tout l'édifice, Huascar, les bras tendus vers la muraille qui s'entr'ouvrait, criait à Marie-Thérèse « Aquí está el muerto !» Voici le mort.